Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour, heureuse de vous retrouver. On peut dire que l'écologie a été mise à mal pendant ce mois de février. Les nuages noirs se sont accumulés. On avait pu croire à un véritable élan sur le front de la transition écologique. Une planification plutôt exhaustive avec une hausse de dépenses, 7 milliards d'euros de nouveaux crédits en 2024. Mais dès le premier obstacle, le gouvernement se dérobe et fait le choix de piocher en partie dans la caisse de la planification écologique pour redresser les comptes publics. Le 18 février, il réduit MaPrimeRénov, 1 milliard d'euros, et l'enveloppe du fonds vert, 400 millions. Ces deux dossiers font les frais des économies à trouver d'après la décision de Bruno Le Maire de revoir ses prévisions de croissance pour 2024. Au total, le ministère de l'écologie voit ses crédits fondre de 2,2 milliards, soit plus de 10% de son budget total. Même si la hausse des crédits alloués à la transition écologique en 2024 est encore de 5 milliards d'euros, cela risque d'être insuffisant pour que la France tienne ses objectifs climatiques. Outre cette mauvaise nouvelle, au menu de cette émission, nous allons revenir bien sûr sur la crise agricole qui a été grandement responsable de cette situation. Y a-t-il de la place pour deux types d'agriculture en France ? Un débat qui a été relancé et qui a été conduit sur les pesticides et les perturbateurs endocriniens. Un incendie également a marqué les esprits. Il risque de se reproduire parce que nos batteries au lithium sont de vrais dangers. Entre Castres et Toulouse, c'est la chasse aux écureuils. Ces militants qui sont perchés dans les arbres et qui se battent contre l'autoroute A69. Enfin, une pensée pour l'Ukraine. 2 ans de guerre déjà. 2 années qui ont bouleversé les hommes et leurs échanges. Plus près de nous, la sécheresse qui perdure, malgré qu'il pleuviote un peu. Faut-il revoir la loi sur l'eau à l'aune du réchauffement climatique ? Des projets naissent un peu partout, plus ou moins bien adaptés au réchauffement climatique. Un golfe en souffrance ? 7 millions pour irriguer les vignes à partir du lac de Salagou ? Un doublement de la conduite de l'eau du Rhône jusque dans les PO. Enfin, ce qui fait notre quotidien. Toutes ces petites initiatives qui prouvent que l'homme, quand même, est ingénieux. Un vélo solaire, un parking végétalisé, ou que la nature est encore bien vivante, avec des sangliers qui envahissent les villes. Savoir également qu'entre le 1er mars et le 31 mai, on fête dans l'Hexagone et dans l'Outre-mer les grenouilles, en sauvegardant les zones humides. D'abord, la crise agricole. Cela a commencé par la montée des tracteurs vers Paris, puis un peu de calme avant une nouvelle tempête à l'ouverture du Salon de l'agriculture qui vit un déferlement de violence. Harold Leviel de l'AgroParisTech nous explique effectivement ce qu'est l'agriculture en France.
Monsieur Rousseau, qui préside la FNSEA, est l'exemple parfait d'un monde agricole très riche. Il est même président d'une entreprise de l'agro-industrie qui est prospère. Il possède 700 hectares, il touche 170 000 euros de subventions de la PAC chaque année. Bon, c'est des chiffres qui ont circulé. Et il est effectivement représentatif d'une élite, absolument, qui tient le système. On peut parler de presque un coup de force hein, quand même qui a été mené par le monde agricole, initialement par les petits, par ceux qui sont vraiment dans des difficultés énormes, et puis qui s'est généralisé avec un mélange des genres, on l'a vu quand même compliqué à analyser. Là où on peut s'étonner, c'est pourquoi les éleveurs restent solidaires de la FNSEA. Une explication à cela, c'est que la FNSEA est aujourd'hui le co-gestionnaire du ministère de l'Agriculture. Donc, sans la FNSEA, pas de pouvoir dans les négociations. On le voit bien, la Confédération paysanne n'a pas de pouvoir de négociation. On l'invite par politesse, mais je veux dire, c'est tout. Et au final, c'est la FNSEA qui négocie et qui obtient un certain nombre de choses, bon, que la Confédération paysanne a critiquées. Hein, mais quand la FNSEA sonne la fin de la récré, eh ben effectivement, les tracteurs repartent. Le système se rétablit.
Loin de ces élites qui dominent le secteur, le monde agricole est divers, inégal, travaillé par des intérêts parfois contraires.
On est vraiment face à une mosaïque de situations qui rend extrêmement difficile et d'une certaine façon très fictive le fait de parler des agriculteurs, des paysans, voilà, parce que finalement ils n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres.
25% des agriculteurs qui ont des revenus au-dessus de 100 000 euros par an, et puis on a 25% des agriculteurs qui gagnent moins de 30 000 euros par an. Donc on a de fortes inégalités qui sont très dépendantes des activités. Les céréaliers vont globalement bien gagner leur vie, et puis les éleveurs vont globalement, à l'exception des éleveurs de porc, vont plutôt avoir des difficultés importantes dans leur activité.
Et pour calmer le jeu, l'écologie devient le bouc émissaire de la crise agricole. Des responsables politiques et syndicaux choisissent de désigner les normes et les contraintes environnementales comme principales responsables de cette crise, au lieu de remettre en cause, justement, les importantes inégalités dans la distribution des aides publiques et la répartition des profits. Mais comment garantir à la fois la souveraineté alimentaire de la nation, la sécurité sanitaire des consommateurs et des producteurs, des revenus dignes pour les paysans, le bien-être animal et la sauvegarde des milieux naturels?
La politique, de toute façon, aujourd'hui, elle est menée qu'en faveur de l'agriculture industrielle productiviste qui détruit l'environnement. Si on n'a pas une vraie volonté politique, ce que j'appellerais un plan Marshall de l'agriculture, avec une vraie bifurcation écologique et économique pour les agriculteurs, on ne s'en sortira pas, on ira droit au mur, on ira vers une agriculture américaine, c'est-à-dire avec des grosses fermes de milliers d'hectares qui appartiennent à des financiers, puisqu'il n'y aura plus que eux qui pourront investir dans des capitaux, parce qu'en fait, le foncier aussi, c'est le nerf de la guerre. Sans foncier, on ne peut pas installer de paysans. Donc c'est tout le système global à revoir. Est-ce qu'on veut encore des paysans nombreux sur le territoire? On était plus de 2 millions il y a 30 ans, à aujourd'hui on est 400 000. Il y a un agriculteur sur deux qui va prendre la retraite dans moins de 5 ans, donc on tomberait à 200 000. Comment on fait?
Avec les élections européennes en ligne de mire, les enjeux agricoles sont plus politiques que jamais.
J'ai quand même le sentiment qu'on est dans un moment où le rapport de force c'est très largement inversé, hein, c'est-à-dire que les espoirs ou en tout cas les décisions stratégiques en matière environnementale vont avoir beaucoup de mal à passer, parce que dans tous les pays d'Europe, vous avez ces formes d'opposition ou tout au moins de réaction à ces politiques de verdissement du côté agricole. Vous avez partout la pression de l'extrême droite. La plupart des pays sont sous pression, hein, des gouvernements. Donc, je veux dire, ils vont pas, brandir l'étendard de la révolution écologique, alors que leurs adversaires néo-conservateurs et conservateurs surfent sur ces politiques-là.
12 ONG rassemblées dans un collectif rappellent qu'en 40 ans, l'Europe a perdu 800 millions d'oiseaux et la France 800 000 agriculteurs. Elle voit dans ces deux effondrements une origine commune. En favorisant les monocultures mécanisées sur des surfaces gigantesques, traitées aux pesticides, l'agriculture intensive a, en un demi-siècle, bouleversé les zones rurales et engendré une profonde crise sociale, économique et écologique. Alors, un feu, un électrochoc au lithium. C'était le 17 février, un incendie débute dans un stockage de 900 tonnes de batteries au lithium qu'abrite la SNAM, la Société Nouvelle d'Affinage des Métaux, à Viviez, dans l'Aveyron. Il est pourtant connu depuis une dizaine d'années que les batteries au lithium neuves ou usagées sont sujettes à des emballements thermiques foudroyants, d'une intensité qui est supérieure à celle des incendies thermiques d'hydrocarbures. La SNAM a développé en 2018 une nouvelle ligne d'hydrométallurgie pour extraire le cobalt, le manganèse, le nickel, des batteries au lithium. L'arrêté préfectoral a autorisé l'exploitant à traiter 300 tonnes de batteries au lithium. Il a été délivré le 25 juillet 2000. Mais le stock de batteries au lithium qui a pris feu était un stock d'attente qui était situé à environ 1 km dans un hangar vétuste et désaffecté. Nulle part dans l'arrêté préfectoral, il n'était fait mention de ce stock déporté qui vient de brûler. Et en débat, immédiatement, un communiqué de la préfecture assure « l'imposant panache noir et opaque n'a pas eu de conséquences sanitaires et environnementales ». Or, on sait que la combustion du lithium produit du fluorure d'hydrogène corrosif. Son inhalation provoque des pathologies respiratoires. Il est très toxique pour les organismes aquatiques et les eaux d'extinction qui se sont déversées dans l'Aisne, le sous-affluent du Lot. Le lithium n'a pas été la seule substance dangereuse à partir en fumée. Les batteries au lithium contiennent aussi du nickel, du manganèse, du cobalt, du plastique, dont la combustion a dégagé des poussières et des suies toxiques. Les dioxines et les furanes sont aussi de la partie. L'incendie est désormais circonscrit, mais il est toujours couvant et il continue à dégager des vapeurs corrosives et toxiques. L'extinction en cours restera sous la surveillance des pompiers. En effet, les incendies de batteries au lithium peuvent rebondir plusieurs jours après. Le site devra alors être considéré comme lourdement pollué par les cendres, les suies, les résidus imbrûlés et faire l'objet d'une décontamination. L'association Robin des Bois, face à la multiplication des départs de feu provoqués par l'instabilité des batteries au lithium, demande plus de transparence et d'information sur ces accidents. Les écureuils, c'est ainsi que sont baptisés les occupants des arbres dans leurs cabanes ou leurs nids de branches, en haut des arbres, de ce qui est devenu une sorte de ZAD, sur le tronçon destiné à devenir une autoroute entre Castres et Toulouse. Dans Info Nature Média, Jean-Jacques Fresco nous raconte comment ces militants pacifistes sur les arbres perchés défient les forces de l'ordre alourdies par leur matériel. Ces forces dites de l'ordre, les aveuglent de flash pour les empêcher de dormir, mettent le feu sur le site, sans souci des vents contraires. Un rapporteur spécial des Nations Unies a été chargé de veiller sur les défenseurs de l'environnement. Il déclare « Les alertes sur le maintien de l'ordre, actuellement employées contre les militants pacifistes, est alarmant. » Pour rappel, ces écureuils se battent pour que ne soit pas construit le ruban d'autoroute entre Castres et Toulouse, qui ferait gagner environ un quart d'heure. 61% des habitants des départements concernés y sont opposés, et 81% demandent un référendum. Aux dernières nouvelles, les soulèvements de la Terre ont envoyé une lettre ouverte à Carole Delga demandant un moratoire immédiat sur ce projet. L'Ukraine, 2 ans déjà. Alors que le 24 février marque le 2e anniversaire de l'invasion russe, Ursula von der Leyen, accompagnée de la première ministre italienne Giorgia Meloni, du premier ministre canadien Justin Trudeau et du premier ministre belge Alexander De Croo, se sont rendus à Kiev en soutien au peuple ukrainien. Qui dit guerre, dit mort, blessé et destruction. Mais les conflits armés sont aussi des conséquences sur l'environnement de long terme. Pollution des sols, des eaux, de l'atmosphère, dégradation, voire destruction d'écosystèmes.
Des incendies dans les raffineries ou les usines chimiques, des destructions de barrages, des champs minés ou des carcasses de chars qui jonchent le sol, derrière ces images de la guerre en Ukraine, on y devine la catastrophe humanitaire, mais aussi les impacts néfastes sur l'environnement. C'est en tout cas l'alerte lancée par l'ONU dès cet été. Il y a d'abord les pollutions classiques liées à la guerre. Les attaques militaires provoquent des incendies dans de nombreuses infrastructures, mais aussi des végétations, et laissent derrière elles de nombreux déchets. Il y a par exemple les fragments d'obus qui sont constitués de métaux lourds, mais aussi les décombres de certains bâtiments qui peuvent contenir de l'amiante. Et puis surtout, sur le territoire ukrainien, le gouvernement a dénombré près de 15 000 véhicules russes abandonnés ou endommagés.
Alors, les pollutions que ça génère sont des pollutions principalement liées aux réservoirs que ces véhicules ont, donc on peut avoir éventuellement des projections de fuel, etc. Mais c'est principalement des pollutions, j'ai envie de dire, d'équipement. C'est-à-dire que vous avez du métal, vous avez un ensemble de composants qui vont se désagréger et polluer durablement certaines parties du territoire ukrainien.
Puis, il y a la pollution liée à la spécificité du territoire ukrainien. Lorsque l'on parle de l'Ukraine, difficile de ne pas évoquer son lourd héritage industriel soviétique, encore extrêmement présent aujourd'hui. C'est l'un des pays qui compte le plus d'usines liées à l'industrie lourde, comme la métallurgie et la pétrochimie. Et depuis le début du conflit, ces sites ont été la cible de nombreuses frappes russes.
Merci à BFM pour ce reportage. Depuis la guerre du Vietnam, les atteintes à l'environnement sont dénombrées. Mais le fonds qui a été créé par Jacques Chirac pour l'écocide, c'est-à-dire les crimes contre l'environnement, va actuellement aux populations, encore heureux, et pas encore à la restauration des milieux. Le gouvernement ukrainien a dénombré 2400 crimes environnementaux, dont la destruction du barrage de Kakhovka en juin 2023. Pollution des sols, des nappes phréatiques, on l'a vu, aux métaux lourds. En Ukraine, bien sûr, il y a des milliers de morts. Mais aussi l'attaque des structures énergétiques, industrielles, qui, une fois bombardées, entraînent la pollution du sol et de l'eau. 60 000 hectares de forêt ont été ravagés par des incendies d'origine militaire et un tiers d'entre elles étaient des zones protégées. La Suisse compte organiser une conférence de haut niveau sur la paix en Ukraine d'ici l'été pour discuter du plan de Volodymyr Zelensky qui pourrait être présenté à la Russie. Même si depuis quelques jours il pleuviote, ce n'est plus un secret. Notre région souffre d'une sécheresse qui semble s'installer. Faut-il revoir la loi sur l'eau à l'aune du réchauffement climatique, comme le propose le ministre de l'Agriculture, ou est-ce encore trop tôt? Après une année 2023 qui a été marquée par une sécheresse qualifiée d'intense, généralisée et durable par la préfecture de l'Hérault, la situation aujourd'hui est jugée particulièrement inquiétante, car identique à celle relevée le 23 août 2023. Comment peut-on expliquer cette sécheresse en hiver? Est-ce une nouvelle constante de notre climat méditerranéen? Le fait marquant de 2023, c'est la quasi-absence d'épisodes méditerranéens et cévenols. Il n'y aura eu qu'un seul événement significatif, celui du 16 septembre, qui a donné de gros cumuls sur les reliefs héraultés plus localement autour du pic Saint-Loup. Partout ailleurs, les fortes pluies habituelles de l'automne ont fait défaut. Alors pourquoi? Eh bien parce que le changement climatique engendre des évolutions bien différentes d'un continent à l'autre. Et sur l'Europe, notamment de l'Ouest, on assiste de plus en plus fréquemment à l'élévation de l'anticyclone assorien. Et cet anticyclone remonte de plus en plus facilement vers le nord et malheureusement en toute saison. Il est encore trop tôt pour dire que c'est la nouvelle constante de notre climat. Mais il est probable que cela soit l'une des principales variables du changement climatique sur notre région. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'épisodes très pluvieux, de vagues de froid ou de tempêtes, mais on est plutôt sur une raréfaction qui est facile à comprendre. Plus c'est anticyclonique et moins le temps est dégradé. La prochaine décennie pourrait être déterminante pour savoir si c'est un accident climatologique ou une nouvelle tendance plus durable. En conclusion, une grave sécheresse concerne le Roussillon et l'ouest du Languedoc par endroits depuis 2 ans. Et elle s'explique par un contexte anticyclonique de plus en plus récurrent. Face à une situation extrêmement tendue, notamment chez les viticulteurs, les institutions réagissent. Malheureusement, souvent sur le court terme, et la facture de l'adaptation va être salée, surtout si les solutions ne répondent qu'à un problème immédiat, sans prise en compte du long terme. Les conflits vont se multiplier. On risque de financer des réponses immédiates, sans tenir compte du fait qu'on s'installe dans la durée, et de rater ainsi les véritables installations nécessaires au long terme, faute de moyens. Ainsi, 7 millions d'euros sont prévus pour irriguer 700 hectares de vignes à partir du Salagou. Bien sûr, les opposants se sont fait entendre en signifiant que cette mesure va se faire au détriment des villageois, des citadins, malgré la promesse d'une irrigation modérée pour une viticulture modérée. On leur rappelle que le Salagou avait été prévu au départ pour l'irrigation, mais c'était il y a longtemps, et on ne savait pas, et les temps ont changé. Autre projet en débat d'envergure, celui-là, le problème Aqua Domitia porté par la région et dont la réalisation a été confiée à BRL. Ce programme s'inscrit pleinement dans la stratégie d'adaptation au changement climatique de la région et dans son plan d'intervention de gestion intégrée de l'eau. Il apporte des ressources en eau sécurisées, renouvelables, etc. pour accompagner le développement économique des territoires. Plus de 8 millions de mètres cubes issus du Rhône ou de la réserve de Jouars vont se substituer à des prélèvements dans des ressources locales en tension. Le programme Aqua Domitia complète le réseau hydraulique régional et sécurise l'alimentation d'une centaine de communes supplémentaires. La deuxième phase, achevée en 2022, laisse la place à un nouveau plan baptisé « L'eau, tous concernés, tous mobilisés en Occitanie ». Ce nouveau plan est doté d'un budget de 162 millions d'ici 2030. Des animations seront mises en place dans les 13 maisons de la région en Occitanie et des partenariats sont noués avec l'association Cycle d'eau et des réseaux scientifiques régionaux, à l'exemple de celui passé avec le centre UNESCO, ici Reward, sur l'eau, qui est basé à Montpellier. L'ambition du plan eau est de faire de l'Occitanie la première région française en matière de réutilisation de l'eau, avec l'objectif de réutiliser 10 millions de mètres cubes d'ici 2030. Écoutons Patrick Casse, élu du Conseil régional de la région Occitanie.
De mémoire d'homme, pour être plus précis, la mienne, c'est la première fois que le lit du fleuve côtier Lagly est resté sec pendant une aussi longue période. Cet état ne soulève pas que des poussières sèches. Il nous oblige à essayer, une fois retombé, à redessiner une perspective nouvelle sur le partage de la ressource, son redimensionnement. Sans être un spécialiste, simple observateur, sans faire de catastrophisme exagéré, il semble que quelque chose a bougé. L'eau reviendra, des paysages humains auront disparu, d'autres devront être réfléchis différemment. Pour l'instant, elle sèche dangereusement les réserves économiques des entreprises agricoles et touristiques. Le plan eau de la région répond aux premières détresses. La situation des Pyrénées-Orientales n'est pas surprenante. Les évolutions climatiques sont connues et annoncées par les scientifiques du GIEC. Nous sommes au début des premiers travaux pratiques de leurs projections. Cet état peut nous amener à pousser un cri d'alerte. Notre département peut être la vitrine progressiste d'une alternative politique. Il pourrait devenir la source d'un grand débat citoyen entre les principaux préleveurs de la ressource, confronter, échanger, construire un avenir environnemental, social et durable.
Mais tout n'est pas morose. Déjà se multiplient les petites initiatives qui prouvent que l'homme est ingénieux. Comme un vélo solaire, par exemple. C'est à Sophia Antipolis, dans le Fab Lab de l'École Polytechnique, qu'un vélo à assistance électrique solaire a été imaginé et surtout conçu. Un nouvel engin parfaitement adapté au climat. Alors, cette équipe de GéoTrouve-Tout n'a bien sûr pas inventé le vélo à assistance électrique ni le panneau solaire. Par contre, en revanche, ces ingénieurs et ces commerciaux du Fab Lab de l'école Polytech ont eu l'idée d'associer les deux et d'en faire un vélo à assistance électrique solaire. Eh bien, ils se démocratisent aussi bien en ville qu'à la campagne. On apporte la simplicité, le fait de ne pas avoir à trouver une prise pour recharger son vélo, ni à démonter sa batterie. Le principe est simple, on arrive chez soi ou au travail, on pose son vélo et le soleil recharge la batterie. C'est tout, c'est simple, on pose son vélo et le soleil recharge la batterie. Autre initiative, les parkings végétalisés. Imperméables, ou plutôt perméables, pardon, et drainants, ils rendent les sols urbains perméables à la pluie. Et savoir aussi que la nature est restée vivante. Vous savez que les sangliers envahissent les villes. On les a même retrouvés au quatrième étage d'un immeuble à La Mosson, un des quartiers de Montpellier. Enfin, entre le 1er mars et le 31 mai, on va fêter dans l'Hexagone et en Outre-mer les grenouilles en sauvegardant les zones humides. On en profite pour parler d'ailleurs d'une campagne à l'initiative de Robin Desbois et de Pro Wildlife. 42 ONG, dont 18 françaises, ont écrit hier au ministre en charge de l'Environnement des 27 États de l'Union européenne pour leur demander de mettre fin aux importations incontrôlées des cuisses de grenouilles et de proposer en 2025, lors de la prochaine conférence des parties, eh bien, l'inscription à l'annexe 2 des espèces de grenouilles dont les cuisses sont importées en Europe à des fins culinaires. L'annexe 2 permet un contrôle de ce commerce international. Elle en appelle également à la suspension des importations en raison des méthodes de mise à mort inacceptables et cruelles, puisqu'on arrache les pattes des grenouilles, encore vivantes. Contrer la terrible impression d'abandon de l'écologie pendant tout ce mois, Christophe Béchu poursuit son tour de France avec dans ses bagages trois autres ministres. Il veut continuer à montrer la fibre verte du gouvernement en pleine crise agricole et en plein tour de vis budgétaire. Une occasion qui va être offerte donc aux élus locaux de questionner le pôle ministériel sur le plan d'économie qui vient d'être annoncé par Bercy et qui prévoit notamment une baisse de 400 millions d'euros du budget du Fonds vert. Un questionnement que nous retrouverons en marge du colloque Territoire d'eau que nous tenons le 19 mars à Rabelais et dont Divergence est partenaire.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.